VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Nouakchott, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, les groupes armés pro-gouvernementaux dits de la plateforme acceptent de se retirer de la localité de Ménaka ce vendredi. L'une des conditions posées par la CMA, la rébellion à dominante Touareg, pour signer l'accord de paix demain dans la capitale malienne. Des précisions avec Maître Aruna Touré, porte-parole de la plateforme, au micro de notre envoyé spécial à Bamako, Idriss Fall.
Nous avons décidé de nous désengager de Ménaka dans le souci de permettre le parachèvement du processus en marche au Mali.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Ce n'est pas un changement d'avis. On s'est adapté à la situation actuelle et nous avons souhaité faire ce pas pour permettre à l'accord de paix de voir le jour le 20.
Les populations de Ménaka ne veulent pas que vos hommes se retirent de Ménaka.
C'est exact, mais la condition, c'est que la sécurité soit assurée, que les populations se sentent protégées, qu'elles aient l'assurance qu'il y a une force capable d'assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Nous avons eu des garanties importantes, aussi bien du côté de la médiation, du côté de l'aménagement, que de la part de notre gouvernement, que notre départ ne sera pas une cause d'insécurité pour les populations de Ménaka.
Vous retournez ce vendredi, est-ce que ça signifie que le MNLA va revenir ou bien c'est une autre porte qui va venir assurer la sécurité à Ménaka?
Le MNLA ne viendra pas, il lui est interdit de revenir à Ménaka. En revanche, je disais tantôt que nous avons eu des garanties que la sécurisation sera faite au profit des populations. Donc, cette garantie de sécurité sera assurée par l'armée malienne et par la MINUSMA à la fois.
Maintenant, les rebelles de la CMA vont signer donc le samedi 20. Est-ce que vous pensez que ça va pour autant ramener la paix au Mali ?
Non, bien sûr qu'un accord n'apporte pas en lui seul la paix. Il faut encore qu'il y ait de la bonne volonté de chacune des parties et que les parties s'investissent sur le terrain pour qu'il y ait un vrai cessez-le-feu, okay, que les hostilités cessent définitivement et qu'on s'intéresse tous à la mise en œuvre de cet accord que nous allons signer le 20.
Signer un accord, oui, mais on a vu, il y a eu une attaque terroriste dans le sud du Mali, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a des attentats un peu partout. Vous pensez que quand même la paix, c'est pour bientôt avec toutes ces attaques, ces djihadistes qui sont autour?
On ne peut pas dire avec certitude qu'il y aura la paix de façon définitive dans le nord du Mali. Je pense que c'est un long cheminement. Nous allons travailler ensemble en rapport avec les forces de l'aménagement, les forces du gouvernement du Mali, mais également les populations, de façon à ramener d'abord la concorde entre les populations à travers la réconciliation, créer des espaces de paix, et ensuite, petit à petit, refaire tout le Nord de façon à instituer de façon définitive et durable la paix.
Maître Aruna Touré, porte-parole de la plateforme à Bamako. Changement de gouvernement au Bénin, le nouveau Premier ministre est le banquier franco-béninois Lionel Zinsou. Son gouvernement a 28 membres contre 27 pour le précédent. Le portefeuille de plus, un nouveau poste de vice-premier ministre. Politique au Cameroun, de passage à Washington, l'opposante camerounaise Kawala, qui sera candidate à la présidentielle de 2018, est venue nous rendre visite à la Voix de l'Amérique. Nathalie Barge lui a tendu son micro.
Pour moi, la parité n'est pas un grand débat. Maintenant, qu'est-ce qui a pu permettre de doubler la représentation des femmes à l'Assemblée nationale ? Il y a eu un combat pendant plusieurs années des associations féminines, des leaders féminins que nous sommes, pour demander que les listes soient composées à au moins 30% de femmes et que les femmes soient bien positionnées dans les listes pour pouvoir effectivement accéder aux postes électifs. Et on a vu qu'une simple recommandation, parce que c'était pas une loi, mais c'était une recommandation de la part de Elections Cameroun, donc l'organe qui gère les élections, a suffi pour que tous les partis politiques respectent cette consigne. Il y a eu des listes qui ont été rejetées parce que la consigne n'a pas été respectée. Et voilà, une fois qu'on donne une chance égale aux femmes d'être dans la compétition, nous constatons qu'elles peuvent gagner.
Paul Biya, plus de 30 ans au pouvoir, comment éviter un nouveau scénario antidémocratique, Kawala ?
33 ans au pouvoir, précisément, les Camerounais doivent absolument prendre la responsabilité pour leur propre avenir. Je crois que c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour l'ensemble de l'Afrique. Nous l'avons bien vu au Burkina Faso, des Burkinabés qui ont dit « Non, nous ne pouvons pas continuer dans un système qui perpétue un seul homme au pouvoir pendant des décennies. Et ils ont pris cette décision, ils ont pris leur destin entre leurs mains, et aujourd'hui, le Burkina est en train de réécrire sa constitution et est en train de remettre des institutions démocratiques en place qui vont assurer l'avenir du pays. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin de trouver sa solution pour prendre en main son propre destin. Je ne vais pas demander une formule burkinabé, parce que chaque pays a son parcours, mais ce qui est clair, c'est que le peuple a besoin de dire non, stop, 33 ans, ça suffit, et nous avons besoin de remettre les choses à plat pour pouvoir avoir des élections saines, pour pouvoir avoir des institutions démocratiques en lesquelles nous pouvons croire.
L'opposante camerounaise Kawala, qui avait déjà été candidate à la présidence en 2011.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Médias indépendants au Burundi, depuis plus d'un mois, 5 stations de radio privées de ce secteur n'émettent plus. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bujumbura, Bagassi Koura.
À en croire les organisations de défense des médias, c'est une véritable traversée du désert pour les stations de radio indépendantes au Burundi.
La presse gouvernementale et du parti au pouvoir se porte bien puisqu'elle fait son travail comme d'habitude.
Innocent Muhozi est le directeur de la radio-télévision Renaissance, également président de l'Observatoire de la presse au Burundi.
La presse indépendante, c'est un désastre absolu puisque les 4 principaux médias indépendants du pays ont été détruits, attaqués à l'arme de guerre. Et détruits par des policiers en uniforme. Et puis après, sur décision du procureur général de la République, elles ont été occupées et sont toujours occupées. Et les propriétaires n'ont pas le droit d'y accéder.
La maison de la presse de Bujumbura sert désormais de lieu de travail pour ces journalistes qui veulent continuer à informer. Emeline Mouhorakeye, directrice de l'information à la radio-télévision Renaissance.
Les conditions sont difficiles parce que déjà, on ne peut pas diffuser. On travaille juste pour mettre ça sur YouTube, donc on n'a pas large public. Mais on a pensé qu'il fallait le faire même si les conditions ne sont pas remplies.
La radio-télévision Renaissance n'est pas seule dans cette situation. 4 autres stations indépendantes n'émettent plus depuis plus d'un mois. C'est le cas de la RPA. La radio publique africaine. Karine Firoko est l'une des journalistes.
On n'a pas accès aux locaux, on ne travaille pas. Beaucoup de mes confrères sont partis au Rwanda ou ailleurs pour se réfugier en attendant que peut-être la situation redevienne normale. Ils ont fui des menaces et d'autres intimidations. Ce n'est pas évident pour les journalistes en ce moment.
Au Conseil national de la communication, le ton est tout autre. Renova Tabou est le vice-président du CNC.
Nous sommes en train de travailler là-dessus. Du côté du gouvernement, la volonté est là. La preuve en est qu'il y a des réunions qui ont eu lieu, notamment au niveau de l'Ombudsman. L'Ombudsman a convoqué une réunion avec les responsables des médias. On cherchait ensemble. On a même eu l'occasion d'aller visiter chacun de ces médias qui ont connu un incendie pour voir effectivement quels sont les dégâts. Alors, c'est ensemble qu'on a vu qu'il faut petit à petit chercher à voir dans quelle mesure on pourrait commencer à travailler.
Mais en attendant, le silence des radios indépendantes a laissé la place à toutes sortes de rumeurs en ces temps de crise au Burundi. Bagassi Koura, Bujumbura pour VOA Afrique.
Aux États-Unis, audience au tribunal aujourd'hui pour le jeune blanc qui a tué 9 noirs mercredi dans une église historique de Charleston en Caroline du Sud. La ministre de la Justice, Loretta Lynch, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale pour déterminer si ce massacre était un crime de haine. Pour sa part, le président Barack Obama s'est retrouvé à dénoncer de nouveaux meurtres insensés en Amérique. Idrissa Sedoudia.
L'auteur présumé de la fusillade a été arrêté. Il s'agit d'un certain Dylan Storm Roof, un blanc de 21 ans. La gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, avait du mal à contenir son émotion quand elle s'est adressée à la presse à Charleston.
And the heart and soul of South Carolina was broken.
Et le cœur, l'âme de la Caroline du Sud a été brisé. Nous pleurons et nous devons endurer une certaine douleur. Les parents devront expliquer à leurs enfants comment ils peuvent aller à l'église et s'y sentir en sécurité.
À la Maison-Blanche, le président Obama a exprimé le même sentiment de douleur et de tristesse, mais aussi de colère pour avoir à parler encore de la violence causée par les armes à feu.
Pour terminer, Human Rights Watch exhorte l'Union européenne à maintenir ses opérations de grande envergure pour secourir les migrants cherchant asile sur son territoire. Appel contenu dans un rapport de l'Organisation de défense des droits humains basée à New York, publié aujourd'hui, alors que les leaders européens s'apprêtent à discuter de ce problème à une réunion au sommet la semaine prochaine. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.